La Méridienne.
On a deux invités aujourd'hui. Tout d'abord, Khalifa Papis Souané, bonjour.
Bonjour Mathieu.
Et Benjamin Jaïr, bonjour à tous les deux.
Bonjour, bonjour.
Est-ce que dans cette période, jusqu'à vos 18 ans, 20 ans, vous avez été témoin de l'exode des jeunes? Est-ce que vous, jeunes, vous vous rendiez compte déjà qu'il y avait des jeunes qui... d'autres jeunes qui partaient, qui quittaient Cabadio et pour aller vers un ailleurs, un Eldorado européen?
Quand j'avais les 18 ans et tout?
Ouais, quand vous étiez jeune.
Non, c'est ça qui est dommage aujourd'hui, parce que c'est effectivement un phénomène qu'on connaissait depuis notre enfance. Moi, j'allais dire, écoute, c'est habituel. Je n'allais même pas décider pour faire cette lutte, pour mener cette lutte, mais c'est parce qu'on ne le connaissait pas. Mmh. On ne le connaissait pas parce qu'effectivement, le moment où on devait le connaître, c'est le moment où on a commencé à nous voir dans un cadre associatif qui s'appelle IEFR. Mmh. Il était une fois une rencontre en 2000. Donc en 2000, déjà, on accueillait les femmes, nous donnaient ce plaisir, les femmes Sam de Cabadio, qui ont accueilli Benjamin et donc avec lesquelles on a pu bosser dans le cadre associatif et qui ont transmis cet amour à la jeunesse et qui a permis aujourd'hui que cette jeunesse puisse travailler avec Benjamin. Donc, on ne connaissait pas ça parce que c'était un plaisir pour nous de voir des jeunes étudiants de France qui venaient pour des projets à Cabadio, qui venaient pour des actions. Ça, on ne connaissait pas. Et c'est que seulement en 2007 que... Après, on a eu quand même un adulte qui voulait aller en Espagne en passant par le Maroc, qui a perdu sa vie. Mais on a attendu 4 ans pour confirmer qu'effectivement, cette personne n'est pas en vie. Parce qu'on pensait qu'elle était en vie. Certains disent, ouais, elle est à la Croix-Rouge, non, machin et tout. Donc, de 2007 à 2009, on n'avait pas ces nouvelles. On s'est dit que là, c'est bon. Mmh. Donc, le vrai phénomène, si vous me le permettez, a commencé à partir de 2012.
D'accord.
Ouais, à partir de 2012, ouais.
Où là, vous vous êtes dit, il y a un sérieux problème. En tout cas, vous avez pris conscience de cette problématique-là.
Oui, à partir de 2012, il y avait des départs. On voyait des gens, ils sont partis de Maroc, Espagne, de Libye, Italie, jusqu'en 2015, 2016. Et donc, jusqu'à ce que le drame frappe Cabadio, là. Il y a un mois, avec l'écoulement d'une pirogue, où on a retrouvé la pirogue après 3 semaines, une pirogue sans corps, sans vie, quoi.
Ouais.
Oui, puis on peut peut-être historiquement refaire un peu ce passage-là qui est important. C'est qu'il y a eu un jeune qu'on va appeler par son prénom, tout simplement, Yaya, qui est parti, donc qui est parti en 2005-2006, qu'on connaissait, nous, que moi je commençais à connaître, puisque je suis allé pour la première fois à Cabadio en 1999. Et Yaya, il était fils d'un agriculteur, un planteur d'orangers, qui avait planté beaucoup d'orangers, donc qui commerçait des oranges et qui avait un peu plus de moyens, justement, que le reste de la population. C'est un des premiers à avoir eu une voiture, par exemple. C'est un des premiers à avoir eu une boutique, une moto. Mm. Et puis, un jour, quand on est revenu au village, il est venu nous voir en nous disant qu'il venait de vivre quelque chose d'assez incroyable, puisqu'il était parti dans un camion frigorifique depuis la Mauritanie jusqu'au Maroc. Et qu'au Maroc, il avait réussi à passer le détroit de Gibraltar sur une légère embarcation. Mais qu'arrivé à la frontière en Espagne, il s'est fait attaquer par des chiens policiers. Il s'est très fortement fait attaquer par des chiens policiers, mordre, etc. Et donc, il a été rapatrié jusqu'au Sénégal. Mmh. Et donc, c'était une première expérience d'un exode comme ça. Et moi, donc j'ai passé beaucoup de temps avec lui. Je l'avais même interviewé pour la radio à l'époque. Et je lui dis, mais pourquoi, quelle idée? Pourquoi ouais. T'as pas fait des papiers ou quelque chose comme ça? Il me dit, mais non, c'est impossible de faire des papiers, j'ai pas d'extrait de naissance, y a rien qui va pour faire des papiers, etc. Et je lui dis, pourquoi t'as eu envie de partir là-bas? Et là, il est allé dans sa chambre, il est revenu quelques secondes plus tard, et il m'a montré une carte postale de Toulon, et il m'a dit, parce que je veux aller là. Il avait trouvé une carte postale de Toulon, et c'était vraiment là où il voulait aller. Donc, on en est resté un petit peu là. Bah oui, c'était un rêve. Et c'est là qu'on a commencé à se dire, bah oui, il n'y a pas que nous, occidentaux, qui avons le rêve d'aller en Afrique, qui avons des rêves de voyage. Tout le monde a des rêves. Chaque humain, peut-être, peut avoir des rêves de voyage. Et l'année d'après, disparu. Il était reparti. Il est reparti. J'ai sa femme qui est venue me voir, j'ai ses parents qui sont venus me voir, j'ai la famille qui est venue me voir en me disant mais tu l'as vu en France, il est parti.
Il avait
des enfants même. On n'a plus de nouvelles, on ne sait pas ce qui se passe. Et moi de retour en France, j'ai appelé tout mon réseau. À l'époque, il y avait Forum Réfugiés qui était très présent sur les Canaries, il y avait la Croix-Rouge, etc. Et on l'a cherché. Et on ne l'a jamais trouvé. Et effectivement, il a fallu un certain temps pour qu'on valide qu'il est disparu vraiment, qu'il soit décédé. Et je me rappelle encore là, de sa femme qui, après, a quitté le village, qui venait régulièrement. Moi, j'avais des appels de tout le monde en me disant « Mais où il est ? Où il est ?» Et c'est au même moment, autour de 2008-2010, comme disait Papis, qu'on est entré, nous, dans cette grosse crise là, économique en Europe, notamment les subprimes, etc., ce qui s'est passé avec la Société Générale, tout ça. C'est à ce moment-là que, vraiment, le film, d'ailleurs, La Pirogue est sorti. Les premières pirogues ont commencé à s'organiser. Donc, il y a eu des premiers passeurs qui ont commencé à passer par la mer. Mmh. Puisqu'avant, c'était par, effectivement, le désert, à pied, en camion, à tourner autour de l'Algérie pour essayer, sur les côtes, après, d'embarquer pour l'Italie, l'Espagne. Ce qui était très difficile aussi, mais ça fonctionnait déjà un petit peu. Et là, du coup, avec ce film, avec la crise économique et en même temps en Casamance avec un basculement au niveau de la rébellion, puisque depuis les années 80, il y avait un mouvement indépendantiste en Casamance, papiste, tous les jeunes là sont nés pendant une guerre civile. Ça situe aussi le contexte, c'est que de 82, puis 92 vraiment, où les armes ont été prises, jusqu'en 2012-2014, il y avait dans chaque forêt des rebelles, des mines, des problèmes qui faisaient que les gens étaient complètement enclavés dans leur village, au point même de ne plus aller cultiver très loin de chez eux. Et donc, du coup, il y a beaucoup de choses qui ont commencé à changer. Il y a beaucoup de jeunes qui ont commencé à se sentir un petit peu plus serrés là, dans cette vie-là, et donc à partir. Et c'est là qu'effectivement, on a commencé à suivre un peu une actualité à partir de Dakar, à partir de certaines plages qui devenaient un petit peu plus précises. Moi, je suis allé dans ces années-là, autour de 2010 à peu près, à Kafountin, où Papis a expliqué tout à l'heure qu'il avait été au lycée jusqu'en terminale. Kafountin, c'est une ville de pêcheurs. Et je suis allé voir des menuisiers qui fabriquaient des immenses pirogues. Il faut imaginer des pirogues d'une vingtaine de mètres qui font 3 mètres de profondeur. Et c'était pas que des pirogues pour aller pêcher. Et à cette époque, j'ai commencé à prendre des photos et c'est les militaires qui étaient en faction tout autour qui m'ont arrêté, qui m'ont interdit de prendre des photos. Et là, j'ai commencé à sentir que effectivement, autour de la pêche, autour des pirogues, autour de l'État, autour des mouvements de population, il y avait des choses qui étaient loin d'être évidentes, en fait. Il y avait des enjeux qui étaient tout autres que ce qu'on imaginait. Quand on a commencé à rencontrer à Cabadio différents passeurs qui se montraient que la nuit, moi, j'ai commencé à me dire « Oula, mais c'est super organisé, en fait. Ouais. » Et quand ces passeurs-là, qui travaillaient notamment en Libye, commençaient à m'expliquer que les jeunes avaient des rêves, il ne fallait pas qu'on lutte contre l'exode des jeunes. Il fallait éventuellement qu'on lutte contre l'exode clandestin des jeunes. Mais l'exode des jeunes et l'exode et la migration et l'émigration, de toute façon, dans nos populations de partout dans le monde, ça existe depuis toujours. Ça ne servait peut-être à rien de lutter contre ça, effectivement. Mmh. Il m'a dit, par contre, va fouiller un peu, regarde un peu le jeu des ambassades au Maroc, en Libye, en France. Regarde un peu le jeu des besoins de main-d'œuvre en Espagne. Regarde tout ça de plus près, plutôt que de m'accuser, moi, passeur, parce que c'est ce que je faisais un petit peu par réflexe. Je disais, mais comment tu peux faire ça?
Comment oses-tu?
Mais tu te rends compte, les gens, ils meurent. Il m'a raconté une anecdote. Il m'a dit, non, moi, je sauve les gens. En Libye, ils se sont retrouvés à une centaine. Il y avait une fourche. Lui, il a été informé que d'un côté ou de l'autre, il y avait une embuscade de rebelles libyens. Et il m'a dit, écoute, j'ai dit aux hommes de partir d'un côté, j'ai gardé toutes les femmes, et au bout de 2 ou 3 heures de marche, séparés, on a entendu tirer pendant 1 heure, tous les hommes se sont fait tirer dessus. Donc du coup, j'ai sauvé toutes les femmes, finalement. Voilà. Et ces discussions-là, c'était très difficile, mais là où je lui donne entièrement raison, c'est qu'après, j'ai fouillé, on a commencé à s'intéresser à tout ça, on a commencé à regarder, et effectivement, le jeu de la mondialisation, le jeu de la main-d'œuvre, les vases communicants entre je donne des visas, je donne pas de visas au niveau des ambassades françaises et au Maroc, je paye la police, je paye pas la police, donc du coup la police est corrompue par les passeurs, donc quand je la paye pas, eh ben elle prend l'argent des passeurs, donc elle fait passer des gens, voilà, tout ça on a commencé à décortiquer un peu l'énorme pelote géopolitique, j'ai envie de dire, de ce qu'il y a aussi derrière ce fléau, parce qu'aujourd'hui, l'émigration, ça restera normal, ça restera un phénomène courant, mais quand ça tue autant de gens que ça en tue, parce qu'on ne sait pas combien de pirogues partent, on sait que quand on est concerné par des décès, comme là, c'est arrivé entre octobre et novembre dans le village de Cabadio, il n'y a que quand on est concerné qu'on se rend compte que, OK, on a trouvé des corps de jeunes du village de Cabadio sur les plages, donc sans vie. On en a trouvé 3, on en a trouvé 4 sur des pirogues où on embarque plus de 200 personnes.
Ouais.
D'accord. Les îles Canaries, aujourd'hui, il y a jusqu'à 24 000 réfugiés d'Afrique de l'Ouest qui attendent là-bas. Donc c'est juste énorme. C'est juste énorme.
Ce sont les premiers départs qui sont bien arrivés, je dis bien arrivés, qui sont arrivés vivants, quoi,
ouais.
Et qui ont provoqué les derniers départs, c'est ça. Voilà, quand la première pirogue est arrivée, voilà, les jeunes ont fait des statuts, ont fait des WhatsApp et tout, comme quoi ils sont bien arrivés.
Via les réseaux sociaux.
Voilà, dans les réseaux sociaux, exactement. Et donc, ça a provoqué une deuxième pirogue, ça a provoqué un troisième départ. Et bien, le quatrième départ, c'était au mois passé. Et c'est là-bas, ça le quatrième départ, c'est très choquant parce qu'à Carton, le village de la Gambie à côté de la frontière, ils ont perdu quand même... Moi, ils ont fait un montage de vidéo où on voit chaque 2 secondes une tête qui passe. Il y a même des jeunes de ce village de la Gambie qui sont venus à Cabadio plusieurs fois, qu'on connaît, qui ont perdu. Donc tu vois bien, dans une famille, tu arrives là-bas, tu vois que des filles. Tu vois que des sœurs, parce qu'effectivement,
tous les garçons sont partis.
Certains sont morts, certains sont arrivés. Donc, on ne comprend pas. Mais en Afrique de l'Ouest, les deux pays qui sont beaucoup plus touchés, c'est le Sénégal. C'est le Sénégal et ici, là, la Gambie. Mmh. Et même ceux qui sont arrivés là, parce que moi, quand je suis arrivé à Paris, à Barbès, le Wolof que j'entends partout, je dis, mais je suis à Cameroun ou je suis à Paris, à Dakar, quoi. J'entends que du Wolof. À Paris, pareil, je me suis dit, mais on est très nombreux ici. Mais bon, je ne les critique pas, je ne les juge pas, parce que je suis qui pour le critiquer, pour le juger. Mais je suis moi-même, quand je défends mes principes, quand je défends mon combat, parce que je sais pourquoi je l'ai fait, parce que mon histoire me le permet, et c'est tout à fait un devoir de citoyen d'honneur qui aujourd'hui montre qu'effectivement, j'ai tous les moyens. Quand la parole est cohérente avec l'acte, on bouge, on part. Moi, le visa que j'ai aujourd'hui, il expire le 25 janvier. Demain, c'est le 5 janvier. Demain, à l'heure-là, je suis dans l'avion pour le Sénégal. Et donc, une fois arrivé là-bas à tête reposée, je me fais un bilan pour voir comment on peut organiser une autre conférence au mois d'avril et dans les lycées, dans les collèges. Donc, pour répondre effectivement à ce qu'il a dit Benjamin, ce sont les premiers départs qui sont arrivés en Espagne qui ont provoqué les derniers départs. Et le dernier départ a été une catastrophe vraiment collective parce que toute une pirogue qui a coulé. Et là, tout le monde est mort. Donc, les 4 jeunes qui ont perdu leur vie dans la mère de la famille Dafé, de la famille Maron, de la famille Sédi et de la famille Cissé, le fils du roi Cissé, la Lamine Cissé, roi de la forêt. Donc, ça, moi, j'arrive à Kaba, je renouvelle cette tristesse avec mon équipe à moi, où d'où on invite les autorités locales qui sont là-bas. Parce qu'il y a aussi une part de responsabilité de leur part aussi.
Manifeste ma fonie secrète d'idée, j'ai peur de combat. One of them on a jam of deal and then no man need you back to my ear and back. Thank you.